Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez, vous pouvez également nous écouter en direct sur notre tout nouveau site fréquencemistral.com. J'ai décidé de vous passer aujourd'hui le témoignage de trois femmes âgées de 79 à 87 ans. C'est dans un instant sur Fréquence Mistral. Eh bien voilà, nous allons partir à la rencontre de trois femmes qui ont bien voulu répondre à mes questions et que je remercie pour leur spontanéité. Et vous allez voir, ce sont trois femmes hors du commun. On commence par rencontrer Juliette. Juliette qui a 87 ans. On part à sa rencontre. C'est tout de suite Juliette. Juliette, vous êtes née le 26 novembre 1927.
À Sainte-Croix du Verdon, oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la vie que vous avez menée? Vous étiez infirmière?
Et j'étais mère, maman avant tout. J'ai élevé mes quatre petits toutes seules puisque j'ai divorcé. Le dernier, il n'avait pas 6 ans. J'étais à l'hôpital, je travaillais. Et quand mes enfants ont été en âge de se débrouiller, j'ai repris mon travail à l'hôpital pour avoir ma retraite de fonctionnaire. Infirmière, oui, je faisais le travail d'infirmière, piqûre et tout. Quand j'ai repris, on m'a mis fonctionnaire.
Le souvenir que vous gardez de votre métier, est-ce que c'est un métier que vous avez aimé?
J'aimais beaucoup les malades. Les malades m'aimaient beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'avais beaucoup de proches. Beaucoup, beaucoup.
Est-ce que c'était un travail difficile?
Ben, il faut aimer. Il faut l'aimer. Difficile, c'est pas toujours facile. Mais il faut aimer, quoi. Quand on aime, il n'y a rien de difficile.
Parce qu'une infirmière, on lui demande beaucoup. Il faut être beaucoup. Aussi...
Voilà, il faut qu'elle avance, pas qu'elle passe comme une bête, que je se fasse... Voilà, il faut qu'elle s'attarde, qu'elle parle un peu avec la personne. Et quand on l'appelle, qu'elle refait pas, je n'ai pas le temps. Et il faut donner du temps, hein, sans abuser, sans trop, parce qu'il y a du travail, mais il faut quand même.
Donc ça fait quelques années que vous avez pris votre retraite?
Oh oui, j'avais... Oh là là, il y a un moment que j'ai pris ma retraite... J'ai
87.
Quelques années, il y a quelques
voilà.
années.
Comme j'étais fonctionnaire, j'avais fait un rachat. J'ai pris bonheur ma retraite. Disons, l'âge à retraite, mettez l'âge à retraite des fonctionnaires. Je ne sais plus. J'ai pris bonheur.
Est-ce que vous avez l'impression que le travail d'infirmière a changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution?
Il n'y a plus d'approche comme il y avait avant. Il n'y a plus cette approche. Oui, c'est moins le... C'est plus pareil. Il y a moins de... Trop de fierté du côté infirmier, je pense. Et elles se prennent un peu de la tête, non? Je crois. Parce qu'être infirmier, c'est le cœur, c'est avec le cœur, c'est pas parce que je suis infirmière, je suis là. Non, il faut...
Il faut respecter les malades?
Il faut respecter les malades. Ah oui, en tout. Pas pavaner, pas se faire arriver, là, faire l'approche. Déjà, j'ai touché la main, même la main sur le lit comme ça, vous savez, qui nous sentent. Vous comprenez? Ils aiment bien vous voir arriver, mais ils aiment bien approcher un peu, vous savez. Et puis le regard, il vrille de suite.
Hein? Oui, c'est important de toucher la personne et...
Voilà, toucher, lui serrer la main, lui toucher le bras comme ça, voilà, oui. Ils aiment bien, vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas comme si... Hein?
Mais en même temps, on demande beaucoup à une infirmière. Il faut beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail et savoir tout faire.
Il faut aimer d'abord. Il faut aimer ce qu'on fait. Hein. Moi, je n'étais pas infirmière, mais j'ai fait le travail d'infirmière. Avant de reprendre mon travail, parce qu'il n'y avait pas des infirmières, le docteur, il faut être très propre. Et j'avais cette chose-là. C'est pour ça que j'ai pu rentrer là-dedans. Le docteur me faisait confiance. Il y avait la pénicilline 2 fois par jour à ce moment-là. Et voilà, le docteur me donnait la responsabilité de la faire et que j'ai appris sur les enfants comme ça. Voilà, je n'ai pas été à l'école, tout. Il faut être très propre. très très propre.
C'était un métier de contact avec les malades, mais aussi entre vous.
Ah non, c'était famille, on était tous à peu près pareils. C'était un petit service, on était tous à quelque chose de près, qui seul. Et puis c'était la famille. Hein. Le docteur, tout ça, c'était... Je le revois, Monsieur Marceau, ben oh là là. Vous savez, je le vois des fois au restaurant, mais toujours il me dit bonjour, hein. tout le temps. Non, il n'y avait pas cette chose de prétention, parce que les infirmières, maintenant, elles sont prétentieuses, elles se prennent de haut. Hein? Il ne faut pas, non. Ce n'est pas parce que je suis infirmière que... Oh, non. Moi, je n'ai pas eu à me plaindre. Oui. J'étais avenante avec tout le monde. Tout le monde me... Parce que j'étais gentille. Au bureau du docteur, quand il y avait des fleurs, j'allais vite en cueillir 4 ou 5. Je mettais toujours quelques fleurs dans son... Vous voyez, des petites choses comme ça. Un petit rien qui touchait les médecins. Je lui portais un peu du café. Je faisais le café. Des fois, ils venaient me demander de le faire. Mais voilà, des petites choses que je le faisais parce que, voilà, pas pour me faire valoir. Non, c'était comme ça. Un respect. Je crois que c'était du respect.
Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la société, de ce qui se passe, de ce qu'on entend actuellement?
Ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai fait, c'est pas comparable. Mm-hmm. Non. Tout le monde s'en fout. Les gens travaillent parce qu'il faut travailler. Mais du cœur, il n'y a pas beaucoup qui travaillent avec le cœur. Hein. Tu vas à l'hôpital, oh là là, elles se prennent pour les infirmières tout de suite. Et qu'elles sont les plus basses, elles se prennent pour les plus hautes. Vous comprenez? Hein, c'est la petite. Moi, j'étais petite, mais je ne me prenais pas trop haute quand même. Et pourtant, je faisais le travail des hauts. On me faisait confiance parce que j'étais propre. Voilà, vous comprenez, j'avais cette chose. Vous savez que ça y fait dans un endroit comme ça, hein, l'hygiène.
Alors justement, vous parliez tout à l'heure de l'hygiène. Vu votre âge, vous avez une aide ménagère qui vient de temps en temps, mais vous n'êtes pas forcément satisfaite.
Non, parce que premièrement, on devrait leur apprendre à faire le travail. Elles ne savent pas travailler. Alors, elles ne savent pas. Elles n'ont pas de base. Hein? Elles ne se lavent jamais les mains. Hein? Le lit, moi, je me le fais dans la semaine. Je l'ouvre bien le matin pour que ça aère. Et puis après, j'aimerais que quand elle vient, qu'elle le défasse. Mais alors maintenant, je le défais pour que... m'aide à tourner un peu le matelas, sinon elle couvre. C'est pas sale. Pour elle, chez moi, c'est pas sale. Et pour moi, c'est pas propre. Mm-hmm. Hein? C'est pas propre. Et c'est pas sale pour elle, bien sûr. Je respecte. Mais pour moi, si je ne fais plus, qui c'est qu'il fera? Mm-hmm. Non, elle se casse pas de ce fait. J'ai toujours dit qu'il faudrait un contrôle, voir ces femmes-là. Personne ne contrôle, personne ne vient voir. Il faut se plaindre, c'est pas évident. Il faut le contrôle. Je le disais dernièrement au social. Je dis, il faut des contrôles. Parce qu'il y a des mamies, je sais qu'on les met sur le lit, on les assoit sur le lit, et vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas fini. Les mamies, j'ai entendu des choses. Il faut quand même respecter. Les deux côtés. Les deux côtés, il faut du respect.
Quels sont vos meilleurs souvenirs?
Quand j'avais mes enfants. Hein. C'est de là que j'ai commencé à rentrer dans le milieu. Et que j'ai été reprise après, insensiblement, parce que les docteurs, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'infirmières. Et c'est moi qui je faisais l'eau de mer, le sirop. Vous savez, de 10 essais qu'il faut faire doucement, que ça fait des boules comme ça. J'ai commencé par celle-là. Et les docteurs regardaient beaucoup l'hygiène, la propreté. Et voilà, ils m'ont remarqué pour ça. Ils me donnaient, voilà. J'avais autorisation. Mais j'avais pas le titre, bien sûr, mais j'avais je ne me faisais pas payer. Mais non, voilà, c'était... Moi, ça ne faisait rien, hein. La confiance, c'est important, plus que l'argent. Vous ne croyez pas? L'argent, c'est beau. La confiance, c'est important, madame.
Et vous avez l'impression que dans les années 2000, l'argent prend beaucoup de place?
Oui, beaucoup. Les gens ne travaillent que pour ça. Oui, l'argent... Les gens... Avant, il y avait l'amour du travail. Et peut-être pas tout le monde, mais dans notre milieu... Il y avait l'amour dans le temps. Il y en a qui venaient par parade pour travailler en hôpital. On te dit de suite, je suis infirmière, même si ce n'était pas vrai. Ce titre infirmière, ça porte haut, vous comprenez? Mais voilà, ça ne tenait pas tout là. Il fallait faire le travail correctement.
Alors quand vous étiez plus jeune, il y avait le travail, il y avait les enfants. Et quels étaient vos loisirs si vous aviez le temps?
Je n'avais pas. Je ne sortais pas. J'ai commencé à sortir quand j'ai divorcé. Avec mes camarades à l'hôpital, elles m'ont entraînée. Mes enfants étaient déjà grands. Et voilà, j'ai commencé à faire la fête un peu là.
Alors la fête, faire la fête, c'était quoi? C'est aller danser, hein?
On peut aller danser, oui, voilà, un peu sortir comme ça, voir des copains, des copines. Mais je n'ai pas longtemps parce qu'après, moi je ne buvais pas déjà. Hein. Je ne buvais pas d'alcool, rien du tout. Comme mes camarades, ça mettait plein la gueule, tout ça. Et, voilà, mais sinon, danser, tes hommes, ils étaient moitié pleins, ils te collaient, ils te...
Hein? Donc c'était pas un plaisir de danser.
Mais oui et non, oui et non. Si je tombais sur des gens que c'était quand même, je sentais du plaisir.
Oui.
J'avais si je reconnais, mais c'était pas la quantité, hein.
Et oui.
Mais c'était la qualité, hein. Oui. Je me faisais pas remarquer comme certaines de mes camarades, et puis je buvais pas, hein.
Alors quelle danse vous dansiez?
Tango. Ah. Tango. Oui. Tango.
Alors, le tango, c'est une danse sensuelle. Oui, vous aviez les talons.
Oui, j'avais un peu des talons. Ah. Oui. J'étais petite toune, mais j'étais toujours bien...
Coquette.
J'étais correcte. Déjà, et puis je ne me faisais pas remarquer, comme mes camarades, elles buvaient de l'alcool. Moi, non, je ne buvais pas d'alcool, j'étais sobre. J'étais avec elles, mais j'étais discrète, tout ça.
Le plus beau souvenir de votre vie, ce serait quoi, alors? Vos enfants?
Oui, oui. La maternité pour venir, parce que j'ai commencé là-dedans, c'est la situation que j'ai fait. La maternité, oui, les enfants.
Et s'il y a une chose qui vous désole aujourd'hui, ce serait quoi?
Désole. Pour dire désolé. Il y a beaucoup de choses. Je crois que les enfants ne sont pas reconnaissants de ce qu'on a fait pour eux. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas ou s'ils ne veulent pas comprendre. Je crois qu'ils ne veulent pas comprendre. Savez-vous qu'ils ont une jalousie de... Parce que je me débrouille, hein. Je me débrouille encore. J'ai ma retraite, tout.
Vous avez travaillé dur pour obtenir une retraite. Et maintenant...
Dur. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé jeune. Et on m'a repris. J'ai eu de la chance qu'on m'a repris, que j'ai pu faire mes années pour ma retraite de fonctionnaire. Hein. J'ai eu de la chance. Hein. Donc j'étais bien notée. Hein. Et parce que les anciens docteurs, il n'y en avait plus guère. Hein.
Oui.
Il n'y en avait plus guère. Hein. J'ai eu de la chance.
Ben Juliette, je vous remercie. Et qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de bien pour les années à venir?
Oh, qu'est-ce que j'attends maintenant? De me tenir droite jusqu'à la fin. Puis après, de rester droite.
Rester droite.
Quand il faut, ouais, être dans le livre, vous savez, je sais pas, ouais. C'est pas évident. Les mamies, parce que sont malheureuses, vous savez, leur fierté me prend un coup là. Hein. Oh là là.
Ben merci en tout cas.
Et voilà, c'était Juliette que je remercie de nous avoir accordé ce petit moment avec elle. On va avant d'écouter Julie, on va écouter du tango pour faire plaisir à ces dames.
Thank you.
Et voilà, donc vous êtes toujours sur Fréquence Mistral. Nous avons été à la rencontre de Juliette. Je la salue, je l'embrasse très fort. Et on va écouter maintenant Julie. Julie qui, à l'époque de cette interview, avait 79 ans. On l'écoute tout de suite. Julie, vous avez 79 ans et aujourd'hui, vous êtes allée vous renseigner dans un drôle de lieu, aux pompes funèbres.
Ben, je voulais m'informer pour savoir comment ça se passe. Hein, le prix, le programme, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche, comme papier, combien il faut payer. Voilà, et moi, les cimetières, ça me fait horreur, c'est affreux.
Et alors, vous êtes rentrée dans ce magasin de pompes funèbres parce que ça fait plusieurs fois que vous passez devant et vous êtes dit, même si vous avez l'intention de vivre encore très longtemps.
Ben oui, je suis passée par hasard devant un petit magasin de pompes funèbres en allant à Intermarché. Et j'étais curieuse, je dis, tiens, je vais voir, c'est peut-être le moment que je m'informe. Donc, je rencontre le monsieur, je lui demande donc toutes ces informations. Et il a bien rigolé par tout ce que j'ai demandé. Parce que je trouve que c'est vraiment, ça pollue tout ça. Les cimetières sont remplis de marbre, de tas de trucs qui servent à rien. C'est pas notre âme qui est dans la tombe, c'est simplement notre enveloppe, notre manteau qu'on laisse. On n'a pas besoin d'emmener le manteau, c'est trop lourd.
Alors, il vous a montré plusieurs catalogues, et notamment pour. Finalement, vous opteriez pour l'incinération, mais quand vous aurez plus de 100 ans.
Ben voilà, je compte bien aller jusqu'à 100 ans si je prends soin de moi, hein, ça, c'est sûr. Puis, il montre la salle où la famille se réunit et tout ça. Et je lui ai demandé aussi, je voudrais bien régler cette chose pour que les enfants n'aient pas de problème. Ni financier, ni autre. Je voudrais vraiment faire la fête. Je veux que ça se passe bien, je veux pas qu'on pleure. Voilà, c'est pas possible, les enterrements, vraiment, c'est affreux. C'est lugubre. Moi, je trouve que si on aime la vie, ben, on n'a pas peur de la mort. Il faut accepter la mort comme la vie, c'est tout. J'ai pas peur. Et je sais que ça se passera bien, mais je ne veux pas que mes enfants, comment dire, je ne veux pas que ça, financièrement et moralement, que ça affecte mes enfants. Je les adore, je les aime très fort, et voilà, toute ma famille, je préfère que ça se passe bien.
Et pourtant, vous êtes en pleine santé, vous marchez tous les jours, vous êtes tout le temps dehors. Et c'est le fait de vous être promené, d'avoir vu ce magasin de pompes funèbres, et puis d'avoir été vous promener vers le cimetière, où vous êtes dit, non, surtout pas ça. Et pourtant, vous n'étiez pas pour l'incinération il y a quelques années.
Voilà, maintenant, je me suis bien documentée et je préfère ça. C'est propre, c'est vraiment bien. Et comment dire, c'est par hasard, hein, Je rencontre des gens qui sont en deuil, je vois des enterrements, j'habite près d'une église, je vois toutes les semaines des enterrements, et ça m'a donné l'idée aussi de m'informer, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, j'ai encore envie de danser, j'ai encore envie de faire du vélo, et voilà, et je ne suis pas encore... prête à attendre la mort. Moi, j'ai des personnes de mon âge autour de moi. Elles disent, moi, j'ai plus rien à faire, je m'ennuie. Elles attendent la mort. Et je trouve ça triste. Moi, quand je propose quelque chose, elles disent, oh non, je me sens pas.
Vous avez encore plein de projets, ben oui. Mais vous avez fait quand même sourire ce monsieur des pompes funèbres, puisque vous lui avez demandé à payer en mensualité, commencer à payer tout de suite pratiquement.
Ben oui, je voulais commencer par petite mensualité, parce que ça risque de durer longtemps. Hein. Et il a bien ri, parce que j'ai dit, vous savez, j'ai encore envie de danser. Hein. Il a vraiment ri. Ben voilà.
Quel effet ça vous a fait de pousser cette porte de pompes funèbres? Est-ce que vous avez été bien accueillie? Vous avez vu des cercueils, différents bois?
Non, c'était net, c'était plein de fleurs, des catalogues, des fleurs, voilà. Il a été très souriant. Non, mais c'était bien, il n'y avait personne, il n'y avait que le monsieur et moi. Et on était dans une petite salle où les familles se réunissent et c'est là qu'on a discuté. Et il m'a fait le devis. Alors, il a pas mis mon nom parce qu'il dit on va pas vous enterrer tout de suite. Hein. Il a mis X, Madame X, ma date de naissance qu'il a pris, ma carte d'identité, mon relevé bancaire. Il m'a informé sur tout ça. Ah, je dis il faut que je vous donne tout ça. Ben, allez-y, allez. Mais bon, je commence pas encore à payer parce que j'ai déjà. Il faut que je paye mon appareil dentaire. Ça l'a fait rire. Ben, j'ai dit, bien sûr, je suis pas. J'ai encore des choses à faire. Hein.
Bon, Julie, je vous remercie et ben, je vous souhaite une longue vie. Et merci.
Eh bien, au revoir. Et j'ai dit au monsieur, moi, je vous dis pas à bientôt.
Voilà, c'était Julie que nous avons écoutée sur Fréquence Mistral. Eh bien, bien le bonjour à elle aussi. Et je vous propose d'écouter une chanson de Guy Marchand, Destinée. Et on se retrouve juste après pour écouter notre dernier reportage avec Régine. On écoute tout d'abord Destinée.
On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. Tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies. Tu attends le soleil impatiemment, éperdument. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard, destiné, où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voulais vous entendre crier, m'appeler. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. Tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies. Attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Sur l'été, destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, l'avenir, espérer, imaginer, inavouer. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter. C'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, destiné. Encore une.
C'était Guy Marchand qui chantait « Destinée ». Guy Marchand, c'était pour Julie, un petit clin d'œil à ce chanteur qu'elle aime beaucoup, et cet acteur aussi, bien sûr. Et puis, on va continuer donc avec notre troisième reportage avec Régine, 86 ans. Régine, c'est un reportage un peu plus long puisqu'il dure 26 minutes, mais c'est un personnage intéressant également. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Régine, c'est sur Fréquence Mistral, et restez à l'écoute. Régine, 86 ans.
Est-ce qu'on peut dire en quelle année vous êtes née et votre date de naissance?
Le 1er mai 1927, dans un muguet, m'a dit ma maman, dans un gros muguet.
Alors j'ai envie de vous demander évidemment vos meilleurs souvenirs, les anecdotes, et puis aussi ce que vous pensez de la société d'aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de changements. Comment vous étiez petite fille? Quelle a été votre jeunesse?
J'ai été élevée avec 4 garçons, 3 frères et un cousin qui travaillait avec mon père. Mes parents étaient des gens du peuple, mais du beau peuple, je dirais. C'était des gens très courageux, honnêtes, enfin bon, très durs, très sévères. Et je leur en suis reconnaissante maintenant, parce qu'ils nous ont forgés par une très bonne éducation. Mais enfin, il n'empêche qu'ils ont fait pas mal de, outre de maladresse, voire pour moi d'injustice. Mais enfin bon, je ne leur en veux pas, je les adore, j'adorais mes parents.
Alors, malgré une vie difficile à l'époque, vous gardez quand même d'excellents souvenirs.
Oui. J'ai un très bon souvenir, pour beaucoup de causes. D'abord parce que la vie était bien plus poétique qu'aujourd'hui. Le progrès, à mon avis, n'est pas source de poésie actuellement. C'est l'informatique qui n'est pas poétique. Et puis, oui, il y avait... Je ne vais pas te raconter l'histoire des chevaux quand même.
Mais si, je voudrais avoir l'histoire des chevaux, justement. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque avec les chevaux? Vous parliez des enterrements, mais aussi du laitier. Alors, on commence par lequel?
N'importe. Alors, les chevaux, moi, j'ai toujours aimé les chevaux, d'une part. Alors, il y avait déjà les chevaux à la charrue. Mon grand-père travaillait à la charrue. C'était dur, mais c'était beau de voir cette charrue qui passait dans la terre. Bon. Et puis, le laitier apportait le lait à ma mère avec un cheval et une charrette dans lequel il y avait des bidons de lait. Et il s'arrêtait devant chaque porte où il devait donner le lait. Et alors un jour, moi j'avais 6-7 ans, je ne sais pas, oui, je me dis, le cheval étant arrêté devant la porte de ma mère, on avait un petit jardin bien sûr, je me dis, je vais voir ce que le cheval fait si je lui dis « Alors je vais prêter son oreille pendant que le laitier servait le lait à ma mère, et dans l'oreille je lui fais « Et voilà qu'il avance !» Oh, j'étais folle de joie. Pendant que le laitier était furieux parce qu'il versait son lait, il renversait son lait, puis il me voit devenir rouge comme une griotte. Évidemment, je me fais engueuler par ma mère, mais le laitier rigolait comme tout. Bon. Alors là, j'ai eu un sentiment de puissance qui était... J'en rêve encore. Formidable. Qu'une petite fille comme ça puisse faire avancer un cheval. Et alors, il y a eu aussi, je me souviens très bien, de l'enterrement d'un de mes voisins qui était C'est pareil, était tiré par un cheval. Alors, comme c'était les voisins, ils s'étaient arrêtés devant notre maison aussi pour aller chercher le cercueil dans la maison. Et le cheval était carapaçonné d'un grand drap noir assez raide, brillant, avec des cercles d'or autour des yeux. Ça lui faisait des très grands yeux. Des cercles d'or autour des yeux, autour du museau, autour des pattes. Il était splendide. Voilà, des choses qu'on ne voit plus. Et puis, il y avait aussi le seul jour de ma vie où j'ai vu l'arrêt de la pluie. Je partais à l'école et quand j'ai traversé la rue, j'étais mouillée sur le côté droit et pas mouillée sur le bras gauche. Et ça, c'était assez extraordinaire. Je m'en suis toujours souvenue. Donc, je marchais comme ça et j'étais juste dans la lisière. Alors, je me suis dit, ben oui, la pluie s'arrête à un moment, mais on sera... Oui, c'était très curieux. Alors, il y avait aussi que j'adorais l'école, bien sûr. J'y allais toujours le jeudi même, car j'adorais ma maîtresse. Ma mère étant assez dure, et puis mes frères taquins, bon, je partais le jeudi à l'école. Ma maîtresse m'aimait beaucoup. Et j'étais une petite fille qui était très maladroite, parce que ma mère me bousculait beaucoup. Donc, je pleurais beaucoup. Ma mère me grondait tout le temps. Et alors, la maîtresse était très douce, elle. Alors, pour m'aider... Elle me faisait souvent remplir les encriers. À l'époque, il y avait des encriers de faïence qui étaient entrés dans le bois du bureau. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Donc, elle me donnait un litre d'encre et me disait, Lucienne, vous allez, elle disait, vous, bien que j'étais si petite, vous allez remplir les encriers. Et je faisais très attention. Je remplissais les encriers sans en renverser une goutte. Alors, elle me disait, vous voyez, comme vous y arrivez bien. J'étais folle de joie, voilà.
Et oui, à cette époque, c'était l'encrier avec les papiers buvards pour effacer les taches.
Oui, non, mais l'encrier était inscrit dans le bois. Oui, tu vois, oui, voilà. Alors, ça, c'est aussi un très bon souvenir de ma maîtresse qui était très gentille avec moi. Tandis que ma mère, tout le temps, c'est vrai, me faisait souvent pleurer, ça. Je pleurais beaucoup dans... Presque à tous les repas. Alors, j'ai eu une enfance difficile en ce sens que je suis née en vomissant. Donc, on n'a pas pu me donner de lait. Alors, ma pauvre mère qui avait déjà mon deuxième frère, je suis la troisième enfant, mon deuxième frère qui était né rempli d'eczéma, elle ne m'a pas reçue très chaudement. Donc, elle était furieuse parce que je vomissais. Bon, alors ma marraine, qui était plus riche que maman, m'achetait des farines. J'ai été nourrie à la blédine et à l'eau, ce qui m'a fait devenir aussi large que haute, mais avec un très mauvais système osseux. Donc, j'ai eu mal de tous les côtés, donc je pleurais souvent, ce qui énervait ma mère. Et en plus, j'avais des dents qui se cariaient tout le temps. Alors, la souffrance de la carie. J'allais chez le dentiste qui me mettait des plombages. Or, j'ai une nature, je ne sais pas comment, je ne supportais pas les plombages. Tous les plombages, je me faisais un abcès l'année d'après. Donc, arrachage de la dent. Bref, petit à petit, comme ça, je me roulais à partir de douleur. Et petit à petit, j'ai plus de dents à 20 ans. Et avec ça, donc, ma mère qui était... On n'était pas riche chez nous. Elle mettait beaucoup d'argent dans des bons repas. Elle faisait très bien la cuisine, faisait très bien les repas. Et moi, je vomissais ses repas. Alors, elle était furieuse, elle m'engueulait. Elle disputait parce que je pleurais, parce que je souffrais, parce que je vomissais.
En tout cas, vous n'avez jamais perdu votre sens de l'humour. Non, vous l'avez toujours gardé, cette joie de vivre.
Bien. Je l'ai gardé, je ne l'ai pas tellement gardé. J'ai écrit d'ailleurs quelque chose qui s'appelle l'histoire d'Ite. Ite étant le pronom anglais, neutre, pour désigner une chose. Et je ne me donnais plus de nom, j'avais perdu mon identité. Donc je m'appelais It. Et l'histoire d'It, je la donnerai à lire si tu veux. J'étais pas tellement gay à l'époque, non. Non, mais moi, ce qui m'a gardé toujours en vie, c'est l'amour de la montagne, l'amour du vent, l'amour de toute la nature. Voilà. Alors la nature a été pour moi un bonheur. Les oiseaux, les... J'ai adoré les oiseaux, oui. Non, la nature a été pour moi un bonheur, c'est vrai. Il paraît que c'est ça le bonheur, d'ailleurs, que c'est pas tellement le sexe.
Oui, alors justement, par rapport à la sexualité, vous avez toujours une façon de tourner les choses qui est excellente. Alors, vous me parliez de votre vie donc enfin, sexuelle très très raccourcie. Quelle était votre expression donc quand vous étiez dans le lit pour le moment crucial?
Ah oui, dans le lit pour le moment crucial. En général, je venais toujours changer le lit très propre. Et alors, je disais à mon mari, ça y est, encore un drap à laver.
Alors, la poésie dans tout ça.
Ah, ben, c'était pas... Ouais. Ouais.
Et votre mari n'était pas vexé?
Je sais pas. Il disait jamais rien, mon mari. Il est très gentil, il disait jamais rien. Je sais pas. Jamais su s'il était vexé.
Alors, vous avez eu à votre tour plusieurs enfants, 4 enfants, mmh. et vous êtes une des premières femmes à avoir exigé d'avoir votre mari à vos côtés. C'était en 1950.
Ah oui. On est arrivé le médecin qui me suivait, et d'ailleurs à qui je dois énormément, parce que c'est lui qui m'a appris à me soigner sans médicaments, ou pratiquement sans médicaments, avec exercice, repos, nourriture. Pas de vaccination. Je n'ai jamais été vaccinée. J'ai eu 5 enfants non vaccinés. Ils marchent très bien. Ils sont très beaux. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. Si, mais alors ça demande quand même une cesse de vie. Ça, c'est vrai. Donc je dois beaucoup à ce médecin. Et ce médecin m'avait envoyé dans une petite clinique, puisque je ne connaissais pas ce que c'est que les accouchements pour le premier. Une petite clinique de la Gare du Nord à Paris, où il y avait seulement 4-5 lits. Enfin bon. Et la sage-femme, c'était 7 heures du soir, commençait à dire au revoir à mon mari. Et moi, je lui dis non, moi je pars avec mon mari et je reviendrai demain matin. Elle me dit non, car vous allez accoucher demain matin, il reviendra vous voir. Non, je lui dis, je ne quitte pas mon mari. Et comme elle insistait et me forçait, je me suis mis à genoux, j'ai pris les jambes de mon mari dans mes bras et j'ai dit je ne quitterai pas mon mari. Et alors, elle était un peu furax. Elle m'a dit, vous allez faire des grimaces, hein? Je lui ai dit, non, je ne ferai pas de grimaces, mais je ne quitte pas mon mari. Alors, elle était furieuse, mais elle a été obligée de garder mon mari, qui s'est assis au pied de mon lit. Elle est allée se coucher. Et le bébé est né à 2h du matin. Très bien, d'ailleurs, je n'ai pas fait de grimaces du tout. Il sortait presque quand elle est arrivée. Et voilà. Et j'étais, une des premières femmes à vouloir son mari aux accouchements.
C'était en 1950.
Oui, 1950.
Et par rapport au vaccin, à l'époque de vos enfants, puisque l'aîné est né en 50. Est-ce que après, dans les écoles, c'était pas obligatoire?
Oui, c'était obligatoire. J'avais des certificats de contre-indication. Voilà. On s'est débrouillé comme ça. Ah ben oui, c'était pas simple, mais voilà. Ben oui, non, on y est très bien arrivé. Et les enfants sont très beaux. Parce que les vaccins. Ça a des inconvénients. De plus, on trouble l'immunité naturelle. Et l'immunité naturelle est une chose très importante à garder. Je vous assure que si les parents arrivent à garder l'immunité naturelle à leurs enfants, eh bien, c'est de l'or qu'ils leur donnent. C'est pas la richesse qui compte. Mais ça, c'est énorme, énorme. Moi, je sais que ma mère nous a toujours bien soignés. Et j'ai toujours mon immunité naturelle à 87 ans. J'ai jamais pris un antibiotique, etc. Donc ça compte énormément. Hein. Les maladies n'arrivent pas comme ça sans raison. Hein. Si on a des tas de choses, c'est qu'on a abîmé son immunité naturelle, qui est très importante.
Et vous adorez la montagne et vous avez toujours marché. Le Cousson, c'est une montagne que vous connaissez par cœur. Vous êtes allé combien de fois sur ce Cousson?
Deux ou trois fois par mois. Ouais.
Et toute seule?
Oui, dès que j'avais le cafard, je prenais mes chaussures, mon bâton, ça ne me coûtait rien, et route. Et je n'avais pas fait 500 mètres de montée, évidemment que j'étais heureuse comme tout. Voilà. J'allais, je mettais chaque fois, parce que c'est à la chapelle Saint-Michel, là-haut, je mettais chaque fois Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, et je redescendais. Voilà.
Et aujourd'hui, alors, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous fait encore plaisir et contre quoi vous vous rebellez?
Qui me fait plaisir? J'ai plus beaucoup de plaisir parce que, d'une part, plus de montagne. Bon. Deux yeux, plus de vélo. Bon, parce que le médecin a peur que je tombe. Trois yeux, je ne peux plus conduire maintenant parce que j'ai les yeux qui se troublent. J'ai eu un AVC, donc en 2011. Non seulement ça ne va pas mieux, mais ça, j'ai l'impression que ça va encore plus mal. J'ai les yeux troublés, il me reste une grande douleur dans le cou à gauche, donc je peux difficilement tourner la tête à gauche. Bon. Donc je n'ose pas conduire. Ce n'est pas que je ne sais pas conduire, mais je n'ose pas provoquer un accident. J'ai peur de provoquer un accident. Donc c'est tout ce que j'aimais, dans le fond, hein, faire du vélo, conduire, monter en montagne.
Mais si je me rappelle bien, vous faites du chant, vous dessinez et vous faites de la gymnastique aquatique.
Oui. Oui, je fais du chant, c'est ce que j'aime bien parce que vraiment, c'est pas une chorale d'ailleurs, c'est un groupe de chant qui est extrêmement sympathique. Ça, c'est vrai qu'ils sont très sympas pour moi et je m'amuse beaucoup. Je fais à moitié du théâtre d'ailleurs avec eux. Enfin bon, j'invente des choses, ils sont rigolos, quoi. Bon, ça, c'est très bien, mais il n'y en a pas pendant les vacances. Quant aux Beaux-Arts, je m'excuse de le dire, mais j'ai été très déçue cette année. Les profs ont changé. C'est plus des profs, à mon avis. Il n'y a plus de créativité. Mais ça marche avec la société actuelle.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi ?
Je trouve que la créativité meurt. C'est-à-dire que... Mais oui, c'est-à-dire que le fait de l'informatique, le fait de ne plus écrire des lettres, le fait de ne plus... de simplement se téléphoner, dire des mails... Regarder la télé, ça n'encourage pas à créer ses propres...
À créer.
À créer, oui. Et puis alors moi, je suis fatiguée aussi. Alors je pourrais dessiner toute seule, mais bah ouais, je ne fais pas. Je n'ai pas beaucoup de courage, c'est vrai. Pas toujours du courage. Je suis fatiguée, quoi. Ça c'est sûr que je suis fatiguée. Hein. On a fait la guerre, hein. Attention, hein, j'ai fait la guerre. Hein. À Lyon, ville de résistance. On a payé beaucoup d'être la ville de Jean Moulin. Pas Jean Moulin, il s'appelait. C'est Jean qui s'appelait. On a payé ça, hein. On a payé cher. On a eu des bombardements de feu, c'est abominable, les bombardements. Alors évidemment, ce qui me fatigue beaucoup, ça a l'air peut-être bête, mais je suis très fatiguée par la guerre de Palestine, que je trouve à la fois aussi interminable qu'insensée. Et je trouve que c'est abominable, quoi. Alors, ça me fait penser à toute cette guerre qu'on a vécue à Lyon aussi. Ça me tracasse beaucoup, cette guerre. Et puis alors, ce qui me tracasse énormément, c'est la descente de toutes les valeurs et la descente de la France en général, en particulier plutôt. Le monde en général et la France en particulier. La France a perdu son aura, alors que je suis très triste pour la France. Voilà.
Vous trouvez que malgré tous les progrès qu'il y a, on régresse ?
On régresse sur le plan moral, on régresse sur le plan culturel, on régresse sur le plan éducation. Oui, là on régresse. Alors bien sûr, il y a des choses bien, hein, sur le plan environnemental. On a abîmé la mer, l'air, la terre, on ne sait pas quoi abîmer, les fleuves, tout est pollué, enfin c'est lamentable. Hein? Alors il paraît qu'on commence à prendre mesures pour faire mieux, attends, c'est archi temps. Oui, on regrette sur beaucoup de choses quand même. Je vois les enfants comment ils sont élevés, ils vont dans les grands magasins avec leurs parents, puis c'est eux qui disent « moi je veux ça, moi je veux ça ». La mère dit « non, si moi je veux », alors on l'achète. On n'a jamais vu ça chez nous, jamais. Non, c'est y a quelque chose qui a pas. Et puis les mères s'occupent plus du tout de leurs enfants. Enfin, pas toutes. Mais je rencontre par exemple une femme tous les jours qui a deux bébés, deux petites. Y en a une qui a 8 mois ou quelque chose comme ça, et l'autre peut-être 1 an et demi ou presque 2 ans. Bon, elle les met dans une poussette, elle habite le quartier à côté là. Et je la rencontre tous les jours quand je fais des courses. Cette mère, donc, qui est certainement une excellente mère, ne travaille pas d'ailleurs, mais elle donne ses gosses à 7 heures du matin. Cette femme est payée pour les nettoyer, pour leur faire leur toilette, les habiller, leur donner à manger, etc., etc. L'après-midi, pareil, elle les reprend le soir, une fois qu'ils sont lavés, elle les couche. Point final. C'est pas une mère, ça. De même qu'au Beaux-Arts, c'est pas des profs, ils nous prennent. Il y en a pas tous, mais il y en a qui nous prennent et on va dans la nature, puis ils s'occupent pas de nous. Alors ceux qui veulent pas venir dans la nature, mais ils restent à la maison, on apporte une carte postale, puis on dessine la carte postale. C'est pas des profs, ça. Non. J'avais un très bon prof qui s'appelait. Elle habite Bradas maintenant. Elle est à la retraite, hélas. Ah, Claudie. Vous voyez. Claudie venait le mercredi, c'est pour ça que je m'appelle le mercredi. J'avais fait une chanson, d'ailleurs, je faisais des chansons pour elle. Cette femme était tellement extraordinaire que non seulement elle m'a fait faire de très beaux dessins, de très belles peintures, mais elle m'a ouverte à tout. Je faisais de la poésie, je faisais des chants, je faisais tout. Elle m'avait comme ouverte aux arts, c'est extraordinaire. Mais ça, on n'en trouve plus. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est dommage, quoi. Mais c'est la vie d'aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est informatique et fric. Informatique et fric, c'est pas très poétique. Voilà.
Si vous aviez un vœu à faire, pour vous, qu'est-ce que ce serait ?
Un vœu ? Que les voisins et que les gens que je vois comme ça acceptent de parler un petit peu gentiment. Il y a 28 ans que je suis là. Je suis là en 86. J'ai tellement été effarée. C'est un petit quartier très gentil. Il n'y a pas d'histoire. Dis-moi, je n'ai pas voulu d'histoire. Mais on ne dit rien. J'ai tellement été soufflée, je venais de la région parisienne, tellement soufflée de cette atmosphère que toutes les années, absolument toutes les années, entre Noël et le jour de l'an, je les ai invités à une après-midi de goûter. Je faisais des crêpes, de la crème, enfin qu'importe, un petit truc simple. Et puis, c'est tout. Ça n'a rien changé. Alors on se dit bonjour, bien sûr. On se dit bonjour. Et pas d'histoire, mais c'est tout.
Et pourtant, maintenant, on a inventé la fête des voisins où une fois par an, tout le monde s'invite.
Je continue à le recevoir une fois par an. Parce que je peux pas. Je leur ai dit, je ne peux pas toutes les années maintenant. Je suis trop fatiguée. Non, mais c'est tout. Alors, une fois, un voisin m'a apporté des abricots du marché parce qu'ils étaient très bons, j'étais très contente. Et la semaine d'après, je téléphone à ma voisine en disant bah, je pourrais peut-être aller vous voir, on pourrait parler des abricots parce que ce n'était pas les mêmes. Est-ce que je pourrais aller vous voir, parler 5 minutes avec. Elle me dit pourquoi faire. Ah bon, très bien, très bien. Voilà, c'est ça ici. Mais ça, il paraît que c'est la Provence. Je m'excuse de le dire pour les Provençaux, mais c'est vrai. Parce que mon fils m'a dit pareil, il m'a dit qu'il était en Côte d'Azur, il m'a dit c'est pareil à la Côte d'Azur. Tandis que dans le Nord, c'est très différent. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça ici. Il y a trop de soleil, on est trop heureux, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que je souhaiterais ? Oui, qu'il y ait plus de relations, c'est vrai. Alors j'aurais dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait peut-être, pour se connaître mieux, pour mieux s'aimer finalement, pour se connaître mieux, se rencontrer un petit peu. Non, ils n'ont pas envie. Personne n'a envie de se connaître et de s'aimer. Personne. On se dit bonjour, c'est tout, c'est le maxi. C'est pas normal quand même.
Alors vous êtes très croyante aussi. Vous allez dans les maisons de retraite.
On y va pour chanter.
Uniquement pour chanter.
Quand j'avais ma voiture et que j'étais plus jeune avant mon AVC, j'allais porter la communion dans les maisons de retraite. Mais là, je ne peux plus. Là.
Ça veut dire quoi porter la communion ?
Porter les hosties consacrées. Et je faisais partie du service de santé, donc. Et pour les gens qui demandaient, on allait porter la communion, quoi. On allait porter les hosties. C'est le prêtre qui les consacre à la messe. Hein. Et on en donnait aux gens des services de santé qui allaient dans les maisons de retraite ou ailleurs, d'ailleurs. J'allais aussi bien chez les gens aussi qui demandaient. Mais non, je ne peux plus le faire sans voiture, bien sûr. Je voyais la personne qui avait demandé. J'allais dans sa chambre. Oui, on prie un peu, on peut parler un tout petit peu de sa vie. Et puis voilà, je lui donne la communion et on reste tranquille un peu. Et voilà, non, c'est très simple.
Et ça, vous ne le faites plus ?
Ah ben, je ne peux pas sans voiture, comme vous voulez que je fasse. Déjà, j'ai du mal à aller à la messe le soir, le samedi soir. Je ne peux plus y aller quand c'est le bourg, c'est bien trop loin.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer d'aller à la messe ? Qu'est-ce qui vous motive pour ça ?
C'est la foi. On sait bien que la messe, c'est le... C'est le renouvellement, enfin, c'est le renouvellement du sacrifice du Christ, qui a dit, le soir de la scène, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Ça, ce sont les prêtres qui ont seulement le droit, avec le sacrement de l'ordre. Donc la messe, c'est la reconstitution de cette scène. C'est très important. Et on ne peut pas, si on est chrétien, on ne peut pas vivre. Le Christ lui-même a dit, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. On a la vie que si on se nourrit spirituellement. La nourriture n'est pas seulement du pain terrestre. La vie spirituelle, c'est une nourriture spirituelle. Et la prière aussi, d'ailleurs. On est tous motivés par l'Esprit Saint. Même les musulmans, même les bouddhistes, ils croient en Dieu, ils croient en la transcendance. Il y a Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le nôtre, c'est le même. Simplement, il n'y a que le Christ qui sauve. C'est ça la seule différence avec les chrétiens. Autrement, il n'y a qu'un Dieu. Tous ceux qui croient en la croissance. Alors l'ennui de notre époque, c'est que justement, on veut éliminer Dieu et qu'il n'y a plus de transcendance. Alors on fait n'importe quoi. N'importe quoi.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas prier chez soi ? Est-ce que c'est important d'être dans ce lieu, dans une église ?
Non, mais bien sûr qu'on peut prier chez soi. Heureusement, bien sûr, je prie bien chez moi. Non, on prie chez soi, mais dans l'église, il y a simplement vous savez que le Saint-Sacrement reste dans l'autel. Donc, il y a la présence du Saint-Sacrement. Maintenant, moi-même, je n'y vais pas très souvent, parce qu'il faut descendre. Enfin, bon, cette église qui est en bas, la Sainte-Barbe. Bien sûr qu'on prie chez soi, bien sûr. On n'est pas du tout obligé d'aller à l'église. Mais la messe, par contre, c'est particulier. Parce qu'il n'y a que là que la scène est refaite, est reconstituée. Et il n'y a que là qu'on peut communier avec tous ses frères et sœurs.
Vous savez, quand on est enfant, qu'on apprend le catéchisme, on apprend par cœur sans vraiment savoir ce qu'on raconte.
Bien, ça, c'est fréquent. Autrefois, je crois que maintenant, on fait plus attention quand même. Et puis autrefois, on a été élevé aussi très bêtement, je dirais même bêtement. Ma mère même le disait, qui était très croyante, « Tu verras, le bon Dieu te punira !»« Eh, le bon Dieu t'a puni, le bon Dieu t'a puni !» C'est pas vrai, ça. C'est jamais le bon Dieu qui punit. Voyez. Alors ça donne une très mauvaise idée du bon Dieu. C'est évident. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu veut nous pardonner. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais du moment qu'on regrette ses fautes, et on en fait tout le temps, et moi encore, j'en fais même à mon âge, du moment qu'on regrette ses fautes et qu'on les dit au prêtre, justement, il donne l'absolution, et c'est complètement rayé, c'est fini. Mon Dieu nous a pardonné.
On va rester là-dessus. Ouais. Merci, Régine.
Régine, oui. Régine, la reine du ciel. La Vierge Marie, la reine du ciel. Voilà.
Radio Fréquence Mistral, un vent de joie dans votre vie.
Et oui, Radio Fréquence Mistral, et on vient d'écouter donc Régine, 86 ans, et c'était un vent de joie d'écouter ces trois personnes, ces trois femmes hors du commun sur notre antenne. Voilà, encore une fois, je les salue et je les remercie, je leur souhaite une excellente fin de journée, et je leur propose et je vous propose à tous d'écouter Jeanne Moreau, « J'ai choisi de rire ».
Dans ses bras, je vous promets mon émerveil, amour toujours, etc. Il me disait avec emphase, j'ai choisi de mourir pour vous, mourir pour moi, des mots, des phrases, ce que j'ai choisi est moins fou. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des baisers perdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus. Adieu.
adieu serment, adieu promesse, adieu caresse, adieu baiser. Et c'est avec délicatesse qu'il prétendit ne plus m'aimer. Je n'ai rien trouvé à lui dire, mais puisqu'il faut mourir toujours, je préfère mourir de rire plutôt que de mourir d'amour. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des mots éperdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus, des espoirs déçus, des promesses folles, des vaines paroles, des amants jaloux. J'ai choisi de rire, de rire de tout.
Trop de tout, y'a trop de blé, y'a trop de pinards, trop d'assoiffés, y'a trop de café, trop à manger, y'a trop de lait, y'a trop d'amour, y'a trop de discours, y'a trop de pigeons, y'a trop de biberons, y'a trop de nourrices, y'a trop de canons, y'a trop de cons. Quelle drôle d'époque, depuis que les maisons sont fermées, on ne voit plus que paire de fesses sur tous les murs. Des grandes surfaces et les enfants vont acheter leurs illustrés entre sœur Vaseline et le petit télé graphiste. Y'a trop de tout, y'a trop de rien, y'a trop de parents, y'a trop d'enfants, y'a trop de voitures, y'a trop de culture, y'a trop de structures. Y'a trop de béton, y'a trop de pognon, y'a trop de banques, y'a trop de branques, y'a trop de bonheur, y'a trop de malheur, trop d'arnaqueurs. Quelle drôle d'époque, avec les machines on pensait que le travail des hommes raccourcirait, et qu'aux quatre points cardinaux on volerait d'étoile en étoile. Mais après le boulot, on se presse toujours dans le métro. Y'a trop de tout, y'a trop de rien, y'a trop de sardines, y'a trop de vin, y'a trop de blé, trop à manger, y'a trop de paumé, y'a trop de vieillards, y'a trop de jeunesse, y'a trop de cimetières, y'a trop de pince-fesse, y'a trop de vaincus, y'a trop de vainqueurs, trop d'emmerdeurs. Quelle drôle d'époque, en pleine superproduction, on pouvait penser que l'âge d'or allait arriver. Mais il paraît que plus on produit, plus il y a d'inflation entre consommés et consommateurs. C'est vraiment un jeu de cons. Y'a trop de tout, y'a trop de blé, y'a trop de pinards, trop d'assoiffés, y'a trop de café, trop à manger, y'a trop de lait, y'a trop d'amour, y'a trop de nourriture, y'a trop de pigeons, y'a trop de vivants, y'a trop de nourriture, y'a trop de canons, y'a trop de canons, surtout y'a trop de cons, mais oui.